La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Centrafrique.
Alterna Bio,
foire aux produits bio, aux énergies alternatives et à l'habitat écologique.
Biodiva 12, une association aveyronnaise qui organise des bourses d'échange de semences, de plants et de boutures. Son président Joël Dandaletch, passionné de biodiversité, ouvrira le cycle des conférences d'Alterna Bio.
Nous avons une antenne sur Centrafrique. Le but de l'association, c'est de promouvoir la biodiversité au jardin familial. Comment on fait pour promouvoir la biodiversité au jardin? Eh bien, l'outil essentiel, c'est les bourses d'échange. Donc sur le Nord Aveyron, on a commencé par une bourse d'échange qui consistait donc à demander aux gens d'amener le surplus de graines, de boutures, de plantes lors d'un rassemblement, et chacun ensuite échanger en troquant quoi, leurs graines, leurs plantes, voire un pot de confiture, tout ce qui vient du jardin. Et donc par ce biais, ça permet de récupérer des plantes et des semences qu'on ne trouve pas dans le commerce. Et donc forcément, on va augmenter la biodiversité dans les jardins. Donc les papis, les mamies qui ont des fois des variétés qu'on croyait perdues, les amènent à cette occasion et ça en fait, plusieurs personnes vont en profiter. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à sauvegarder le peu de biodiversité qui reste encore au jardin, en favorisant les échanges. Voilà. Alors comment on vient de le voir, et alors pourquoi développer la biodiversité au jardin? Eh bien, c'est un moyen de jardiner plus naturellement. Donc le jardin naturel, ça signifie non seulement l'abandon de tous les produits chimiques en tant que pesticides, mais également en tant qu'engrais. Donc on s'affranchit complètement du commerce. Puisqu'on peut développer un jardin sans avoir à acheter tout un tas de produits. Et la biodiversité permet de se passer de tout ça. Alors, ça peut aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'au niveau technique, si on a suffisamment de biodiversité animale et végétale, le travail de la terre devient totalement inutile. Donc le labour, le passage du motoculteur, tout ça devient obsolète. Donc c'est assez révolutionnaire, mais ça a déjà fait ses preuves. Maintenant, on a plus de 30 ans de recul là-dessus, avec un certain nombre de précurseurs. Et vous pouvez voir par-ci, par-là en France et à l'étranger, donc des jardins qui n'ont pas été labourés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans lesquels la terre est grumeleuse, elle absorbe bien l'eau quand il pleut. Y a des vers de terre, dès qu'on gratte la terre, on s'enfonce facilement, il y a des vers de terre. Et on observe une biodiversité naturelle, c'est-à-dire il y a un certain nombre de plantes sauvages qui poussent à côté des légumes qu'on a implantés.
Un jardin où on ne fait pas grand-chose dessus, si ce n'est que semer. Donc la journée ou la vie d'un jardinier se résume à quoi alors?
Alors, si l'on veut éviter le travail de la terre, il faut le déléguer à d'autres animaux. Donc ceux qui font le travail de la meilleure manière, ce sont les vers de terre. Donc ça, c'est connu, tout le monde connaît les vers de terre, eh bien il y en a plusieurs sortes, et il y a un certain nombre de vers de terre qui font sans arrêt des allers-retours entre la surface et la profondeur, et donc qui vont naturellement retourner le sol. Alors ils ne sont pas tout seuls, il y a aussi tout un tas de scarabées, il y a même les escargots quand ils pondent leurs œufs qui remuent le sol, il y a les hérissons, il y a tout un tas d'animaux qui participent à ça, mais principalement donc c'est les vers de terre. Qui en masse représente la même masse que l'ensemble de tous les autres animaux sur Terre. Donc si on arrive à les faire proliférer dans le sol, on a quelque chose qui est beaucoup plus puissant qu'un tracteur. Alors là où passent les tracteurs, il reste en gros un ver de terre au mètre carré. Dans un jardin naturel, il y en a 3 à 500 au mètre carré. Donc on voit que là, à partir de ce nombre, il n'y a plus besoin d'intervenir sur le sol. Et donc la seule chose qu'il faut pour que ces vers de terre fassent leur boulot, c'est de les nourrir. Et donc on va reproduire ce qui se passe partout, c'est-à-dire en forêt, dans les prairies. On va apporter de la nourriture en surface, uniquement en surface. Donc on amène du paillage naturel, éventuellement du compost, mais le mieux c'est d'amener des feuilles mortes, des broyats de branches, et on les met en surface, donc ça va avoir le rôle de paillage, empêcher l'eau de partir, et en même temps ça nourrisse toute cette faune qui va naturellement remuer le sol. Voilà.
Et qu'en est-il du fumier, par exemple ?
Ben, le fumier, c'est quelque chose qui, dans la nature, n'existe pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement concentré. C'est exactement comme des bouts de station d'épuration. On a rassemblé en un lieu une quantité d'excréments énorme. Donc c'est très riche en phosphore, en azote, les fameux NPK. Mais c'est trop riche. C'est-à-dire que si vous mettez du fumier directement frais sur le sol, vous allez d'abord avoir un effet de désherbant. Donc si vous urinez sur une plante, régulièrement, la concentration en urine va être tellement forte que l'azote va tuer la plante. Par excès, par empoisonnement, par excès. Donc le fumier, c'est pareil. Si vous le mettez frais sur le sol, vous allez dans un premier temps empoisonner tout ce qui est autour. Le temps que les bactéries, les vers de terre, dégradent l'excédent de fumure et l'homogénisent sur le sol. Donc pour ce qui est du fumier humain ou du fumier animal, il faut d'abord le composter, le pré-composter pour qu'il devienne moins nocif. Donc il commence à pourrir un peu pour que le taux d'azote, de phosphore diminue un peu.
Et il faut combien de temps pour que ce fumier se décompose ?
Ben, ça dépend des conditions dans lesquelles on le stocke. Si on le remue souvent, il va se composter en quelques mois. Par contre, si on le laisse en tas, il peut falloir plus d'une année. Voilà. Alors le fumier est mûr lorsqu'il grouille de vers de terre. Voilà, c'est le bon indicateur.
À part les vers de terre, quels sont les autres collaborateurs du jardinier ? On a parlé donc des escargots, des scarabées. Est-ce qu'après, au niveau des plantes, il y a des plantes aussi qui sont intéressantes ?
Voilà, tout à fait. Alors, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, ça n'existe pas. Alors, si je prends une mauvaise herbe qui est très connue des jardiniers, c'est le rumex. Donc, ça ressemble à une oseille, mais ça ne se mange pas. Et si on suit les préconisations des agriculteurs, il faudrait mettre du désherbant, il faudrait les arracher, etc. Le rumex, c'est une plante qui a une racine très très longue, qui descend loin, sous terre. Et donc, au lieu d'être une mauvaise herbe, c'est plutôt une herbe qui va s'installer quand le sol est compact, trop riche en azote. Et le fait d'avoir une très longue racine, ça va lui permettre d'aller piocher tous les éléments qui ont été lessivés par la pluie, qui sont descendus profond dans le sol. Et ces éléments, la plante les absorbe et les ramène vers le dessus. Donc ensuite, quand vous coupez les feuillages ou une partie de la racine, vous la mettez simplement en surface, elle servira de nourriture aux vers de terre qui vont redisposer à la surface et dans les premiers centimètres du sol de tous ces éléments que le rumex a remontés. Alors bien sûr, il va repousser. Et puis, s'il repousse, il va vous ramener des éléments et puis ainsi de suite. Donc c'est pas une mauvaise herbe. Et on peut prendre ainsi l'exemple de toutes les plantes appelées mauvaises herbes au jardin, elles peuvent toutes avoir une utilisation, ne serait-ce qu'en fertilisant. Voilà, et puis disons que quand une mauvaise herbe pousse, si elle pousse à un endroit qui ne gêne pas, eh bien on peut la laisser, et en attendant, elle va fixer du carbone, elle va participer donc à la chute du CO2 dans l'atmosphère, etc. Donc voilà, si on prend une autre philosophie, si on regarde les choses d'une autre façon, eh bien le jardin devient beaucoup plus amical. Il n'y a aucun prédateur, il n'y a aucun nuisible et il n'y a aucune mauvaise herbe.
Si vous êtes intéressé pour avoir un jardin de plus en plus naturel où la biodiversité se développe, ben venez écouter Joël Dandalec, un jardinier passionné qui sera présent dimanche 1er avril à la foire Alternabio à 9h30.